Chapitre 12. Maman soulasse, papier à fromage. Paris a bien changé depuis 1835. Marion est morte, la pauvre bête, incessamment insultée. Monsieur Flamand, son maître, fit son oraison funèbre vers l'an 40 en ces termes. Elle n'avait pas de mine, mais elle l'allongeait comme une divinité, la Guenon. Monsieur Flamand est mort aussi. Le pays latin a maintenant des calèches comme père et mère. Les Guenons vont dedans, dit l'histoire. Le pays latin a des boulevards magnifiques, des cafés fastueux. À peine reste-t-il un bout de la rue de la Harpe, comme une traînée de boue, oubliée par les balayeuses au beau milieu d'une route impériale bien tenue. Marion ne s'y reconnaîtrait plus, et M. Flamand, redivivus, s'y refuserait à lui-même une place de garçon d'écurie. Mais, étant donné M. Flamand et son attelage, tous deux appartenant au quartier de la Sorbonne en 1835, nous ne surprendrons personne en constatant que Mme Soulasse, revenant de Saint-Germain, descendit au coin du quai des Orfèvres et de la rue de Jérusalem vers 9 heures du matin. Il avait fallu le tour entier du cadran pour faire le voyage. Madame Soulasse ne rentra pas tout de suite dans l'établissement du père Boivin, son propriétaire. Elle avait bien autre chose en tête. Tout le long de la route, ou du moins depuis que le jour était venu, l'hôtesse de messieurs les inspecteurs avait passé son temps à lire et à relire les deux lignes tracées par le général comte de Champmas au moment de son départ. « Isole suavita, mes filles chéries, aimez et respectez celle qui vous portera ce mot, comme vous m'aimez, comme vous me respectez moi-même. » Bien des fois, ses yeux s'étaient mouillés. « Isole », s'était-elle dit, radotant à satiété ce mot délicieux qui jamais ne lasse les mères. « Ma fille, elle était haute comme mon genou la dernière fois que je l'ai embrassée. Ah, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai bravement souffert pour cet enfant-là. Souffert, souffert, souffert. » Elle riait des larmes. « Mademoiselle de Champmas n'en saura jamais rien, poursuivait-elle. Tant mieux. Elle doit avoir bon cœur. Ça lui mettrait du triste dans sa richesse et dans sa noblesse. Le croiriez-vous, il y avait un grain d'amertume en tout ceci. Vous ne pratiquerez jamais aucune amputation sans faire saigner et crier. Thérèse Soulasse s'était opérée elle-même héroïquement, mais la plaie énorme n'était pas guérie. Il restait une blessure vive, incurable, à la place où était son bonheur de mère avant l'amputation. « Et l'autre enfant, reprenait-elle, mais alors son bon sourire renaissait tout entier. La fille de la Sainte Femme, y a-t-il assez longtemps que j'ai envie de la voir ? Lui ressemble-t-elle ? Ah, celle-là était belle sur son visage comme dans son âme. » Et le billet était relu encore, relu 100 fois. « Celle qui vous portera ce mot, c'est moi. » Il me semble que si on m'avait montré maman, la pauvre chère femme, sans que je la connusse, mon cœur aurait sauté à son cou. Mais bien des gens disent que ce sont des folies. Me devinera-t-elle ? Aimez-la, oh oui, aimez-la, elle a fait de son mieux. Respectez-la, respectez maman Soulasse qui tue la soupe des chiens de garde, hein, c'est fort. Mais elles ne seront pas cela plus que le reste. Hein. Eus donc, Marion, tu n'es pas heureuse non plus, pauvre bête. Hein. Aussitôt qu'elle eut mis pied à terre, au lieu de tourner par la rue de Jérusalem, elle suivit le quai au pas de course et arriva, en quelques secondes, à la porte de la maison à 2 étages. Son cœur battait, elle se sentait toute faible. « C'est le besoin, se dit-elle, je n'ai rien pris depuis hier 5 heures et j'aurais mieux fait de tremper une croûte de pain dans un verre de vin avant de venir, mais c'est que j'avais tant de hâte. » Elle s'arrêta pour se demander, « Ah ça, qu'est-ce que je vais leur dire en commençant ?» D'ordinaire, la porte de la rue était toujours fermée. Madame Soulasse savait bien cela, parce qu'elle passait devant la maison le plus souvent qu'elle pouvait. Il n'y avait point de concierge et le rez-de-chaussée était habité par les domestiques du général. Aujourd'hui, la porte de la rue était entrebâillée. Sans autrement s'étonner, Thérèse la poussa et se trouva en face de Monsieur Badois, qui avait le bras en écharpe, une bande de taffetas noir sur la joue, et qui semblait être là en sentinelle. Madame Soulasse recula à sa vue. Tiens, tiens, fit l'inspecteur d'un air un peu contraint, ce n'est pas vous que j'attendais là. Une seconde de réflexion suffit à Thérèse pour se remettre. Selon toute apparence, la police était sur pied à cause de l'évasion du général. « Comme vous voilà arrangé, monsieur Badoit, » dit-elle. L'agent retint une parole qui était sur sa lèvre et répondit « Après ça, vous êtes libre de vos pas et démarches, madame Soulas. On a travaillé cette nuit rapport à l'arrestation du marchef. »« Ah, » fit Thérèse, « il est arrêté, le marchef ?»« Vous sauriez ça depuis un bout de temps, madame Soulas. » prononça gravement l'inspecteur, si vous aviez été présente à votre domicile quand les habitués de votre ordinaire sont venus vous demander, sans vous commander, car ce n'était pas dû, un morceau à manger après la besogne faite. C'est drôle qu'une femme de mœurs comme vous découche, madame Soulas. Chacun a ses devoirs à remplir, monsieur Badoit, repartit Thérèse doucement. Feu Soulas était un brave homme et disait, foin de ceux qui jugent leurs amis. Madame Badoit lui tendit la main et dit avec émotion « Celle-là irait au feu, comme quoi vous n'êtes pas coupable, madame Soulas. »« Coupable ?» répéta Thérèse en riant, « comme vous y allez. Mais ça gênerait-il le service de vous demander ce que vous faites ici ?»« Avec vous, jamais d'affront, belle dame, » répondit l'agent. « Vous êtes de la partie pour la bonne soupe que vous lui communiquez, et votre discrétion à l'épreuve de l'eau et du feu. Souricière, par quoi nous en avons installé une ici de l'autorité privée du commis principal, les chefs et sous-chefs étant absents, vu l'heure indue où elle a commencé, 5 heures du matin. Et pourquoi la souricière? Pour contrepincer les habits noirs. » Tant de gens avisés et instruits ont fait l'éducation des lecteurs à l'endroit de la langue savante des bagnes que nous jugeons complètement inutile d'expliquer le mot « souricière ». Autant vaudrait recommencer l'histoire naturelle des pieuvres et des trichines, ces deux bêtes pourries de gloire. « Les habits noirs !» répéta madame Soulas. « Vous êtes donc sur leur trace, monsieur Badoit ?» On a des motifs majeurs de le supposer, mais laissez-moi pousser la porte tout contre pour ne pas nous montrer à ceux du dehors. Voilà la chose en succinct. Ma mouche, le jeune Clampin dit pistolet, je vous engage à bien veiller sur votre minet, belle dame, et du bois dont on les fait dans la haute, sang froid, langue dorée et astuce infernale. Mais pas de prestance physique jusqu'à présent. Il nous a rabattu le coyatier cette nuit, de dessus le mur où il s'était perché à califourchon, commodément, partisan de ses aises. Je vous dirai bien l'affaire de Gautron à la craie jaune que mon ami Clampin a gâchée par ses passions de bobineau, mais ça n'en finirait plus, d'autant que j'ai à vous parler du premier étage ici-dessus, où on a dévalisé le pied-à-terre du général et enlevé ses deux demoiselles. » Madame Soulas s'appuya au mur. Ces derniers mots la frappèrent comme un coup de foudre. « je sais, » poursuivit l'inspecteur d'un ton dégagé. « Les dames, c'est sensible à ce genre particulier de sinistre. Si vous leur mentionnez un vol avec circonstance ou le meurtre d'un homme établi, ça les amuse, mais dès que vous arrivez à un enlèvement de jeunesse, elles partent dans la voie de la sensibilité impressionnable. » Il y a donc qu'à l'étage là-dessus, les habits noirs se sont réunis en propre original pas plus tard qu'hier soir. « Mais ces enfants, monsieur Badoit, » fit Thérèse en un cri d'angoisse. « Une enfant et une qui ne l'est plus, » rectifia l'agent, « comme quoi on présoupçonne que l'aînée s'est enfouie avec son chacun, gardement de la belle espèce, et qu'elle s'est arrangée de manière à mettre l'autre dans l'embarras. » Madame Soulas appuya ses deux mains contre son cœur. « Isole, » murmura-t-elle, « c'est un mensonge. »« C'est effectivement le nom de la particulière, » poursuivit monsieur Badoit, « et je me suis laissé dire que cette jolie jeune fille-là, c'est toute une histoire. Elle appartient au général, si on veut. Le général a connu jadis au temps des bamboches et cabrioles du jeune âge, dans le militaire, une villageoise qui en savait long, en conséquence de quoi elle lui a collé mademoiselle Isole sous prétexte de paternité, qu'elle était vraisemblablement le fruit d'un facteur de la poste ou d'un porteur d'eau du pays, connu. » Madame Soulas laissa échapper un gémissement. « Comme quoi, j'ai l'honneur, » continua cet imperturbable Badoit, « et de fil en aiguille, il arrive toujours malheur quand on introduit comme ça des petits de fraude dans les familles respectables. »« Monsieur Badois, dit Thérèse, qui faisait effort pour parler, vous calomniez mademoiselle Isolde de Champmas. » L'agent la regarda en face, puis salua courtoisement. « Dès l'instant que vous vous y intéressez, murmura-t-il, elle est blanche comme la neige aux yeux de mon cœur. Je vous ai fait le rapport de ce qui se dit, mais l'inspecteur peut se tromper, comme le vulgaire. Ce n'est peut-être pas l'aîné qui s'est occupé de la cadette, quoique les insectes introduits comme ça, en contrebande dans les familles, mais je l'ai déjà mentionné. Et à quoique aussi la disparition de la petiote augmente juste de moitié la succession de cette mademoiselle Isolde, qui est peut-être une vertu de premier numéro, puisque vous en répondez. » Mais, objecta madame Soulas, dont le trouble était à son comble, pourquoi parlez-vous de succession? Le général est bien portant, ce me semble. Nous sommes tous mortels, repartit Badois. Le général a eu le malheur d'être assassiné hier soir par le même coyatier, dit le marchef, la porte en face de chez vous. Dernière nouvelle. Badois eut ici de sérieux motifs pour s'endurcir dans sa religion à l'endroit de la sensibilité des dames, car l'annonce du meurtre de monsieur Champmas ne fit pas sourciller Thérèse. « J'avais toujours cru, murmura-t-il désappointé, que vous aviez des mystères et des attaches de ce côté-là. Va te faire fiche, sonder l'âme de l'autre sexe, c'est la pierre philosophale. » Comme Thérèse, littéralement anéantie dans ses réflexions, gardait le silence, monsieur Badois ajouta « Je dois spécifier à la décharge de la demoiselle Isolde, car l'équité avant tout, qu'il y a eu fausse clé, petite effraction de rien du tout et un vol partiel, de quoi on peut inférer un malfaiteur mal, mais le coyatier... « Monsieur Badois, s'écria ici Thérèse, au nom du ciel, laissez-moi pénétrer dans l'appartement du général. Les femmes trouvent parfois des indices qui échappent aux yeux des hommes. » « Exact, interrompit l'inspecteur, mais pas possible. Monsieur Mégaigne est au premier, et quant aux indices, c'est superflu. On est fixé, les oiseaux sont envolés, voilà l'axiome. Envolé au premier, envolé au second, car il devait y avoir des accointances entre les deux étages. J'en signe mon billet à 90 jours. Les oiseaux envolés, ça ne revient pas. Nous gobons ici le marmot, tenant la maison du haut en bas pour le roi de Prusse. » Nous ne reverrons ni les jeunes filles ni les habits noirs. Par quoi, madame Soulas, si vous alliez nous en tremper une toute prête pour l'heure de 11 heures, j'y serais particulièrement sensible, ayant trimé exceptionnellement depuis la dernière fois que j'ai eu l'avantage de la manger chez vous. » Thérèse se retira sans répondre. Dans la rue, elle sentait sa tête tourner. Elle était ivre. Ivre de terreur et de douleur, car l'accusation portée contre sa fille répondait à un cri de sa propre conscience. Non point qu'elle se reconnût coupable elle-même, dans le sens ordinaire du mot, mais une parole de M. Badois l'avait violemment frappée. M. Badois avait dit « Les enfants étrangers qu'on fait entrer ainsi dans les familles portent malheur. » Cette pensée préexistait-elle dans l'esprit honnête et droit de Mme Soulas? Était-ce pour cela qu'elle l'aimait sans la connaître, à l'égal de sa propre fille, la fille de feu la comtesse de Champmas, qu'elle appelait la sainte femme? Quand elle eut monté les 3 étages de l'escalier tournant, elle vit la porte de Paul Labre grande ouverte. Celui-ci la guettait et l'appela. « Il y a eu bien du nouveau cette nuit, maman Soulas, lui dit-il. Je n'ai pas à me mêler de vos affaires, mais j'aurais donné un doigt de ma main pour vous avoir. » Thérèse lui répondit tout autrement qu'elle n'avait fait à M. Badois. « J'ai accompli une besogne dont je ne me repens pas, M. Paul, dit-elle. Ça n'empêche pas que je suis bien fâchée de n'avoir pas été là, puisque vous avez eu besoin de moi. » Son regard se fixait sur la petite table où il y avait du pain, du vin et un reste de fromage de Brie dans un lambeau de journal. Paul était en train de manger. « Ce n'est pas pour le déjeuner que j'ai eu besoin de vous, reprit-il. » Quand la réunion est venue pour faire votre ménage, je l'ai envoyé me chercher cela, car je ne pouvais pas sortir, madame Soulas, j'ai quelqu'un à garder ici. » Je ne sais pas pourquoi la pensée d'Isolde traversa l'esprit de Thérèse. Ce ne fut pas frayeur qu'elle eut, mais bien espoir. Expliquons-nous clairement et d'un mot. Madame Soulas, ayant à choisir entre 2 malheurs, aurait mieux aimé trouver en sa fille une victime qu'un fléau. Elle regarda Paul et dit, craignant de l'interroger, « Il y a quelque chose de changé en vous, monsieur Labre. Ce matin, vous n'êtes plus le même homme. » C'est que l'idée de me tuer m'a passé, Madame Soulas, repartit simplement le jeune homme. « Vous tuer ? » répéta Thérèse étonnée. « Vous vouliez vous tuer ? Quand je vous ai embrassé hier au soir, je croyais bien que c'était pour la dernière fois, mais comme je m'en allais mourir, Dieu m'a envoyé plus d'une raison de vivre. » Il se leva et découvrit le lit sur lequel il avait jeté la courte pointe de soie pour garder le visage de Suavita contre les rayons de soleil. Madame Soulas poussa un grand cri à la vue de l'enfant. « Est-ce que vous la connaissez ?» demanda Paul vivement. « Moi ?» répondit Thérèse, comme si on l'eût accusée. Puis elle ajouta, « Non, sur ma conscience, monsieur Paul, jamais je ne l'ai vue. » Il y eut un vague soupçon dans le regard du jeune homme. Thérèse aussi était absente cette nuit. Mais ce fut l'affaire d'un instant, et il dit, « Vous êtes la meilleure femme que j'ai jamais rencontrée, Madame Soulas. » Celle-ci avait les yeux fixés sur Suavita, dont maintenant le sommeil était paisible. Elle pensait, « C'est elle, je jurais que c'est elle. »« Était-elle deux ? » demanda-t-elle brusquement. « Comment deux ? » fit Paul étonné. « Quand l'avez-vous sauvée ?»« Et qui donc vous a dit que je l'avais sauvée, Madame Soulas ?» demanda Paul presque sévèrement. Elle releva les yeux sur lui comme une personne qui s'éveille et vit deux grosses larmes rouler lentement sur sa joue. « Monsieur Paul, dit-elle, au nom de votre mère, ne croyez jamais du mal en moi. Il y a quelqu'un ici-bas que j'aime plus que moi-même, oh, 100 fois et 1000 fois aussi. J'ai bien souffert pour elle, je souffrirai peut-être davantage encore. Dites-moi ce qui vous est arrivé, je vous en prie, sans rien omettre, sans rien cacher. Dieu me témoin que je lui crois un bon cœur à celle que j'aime et à qui j'ai donné plus que mon sang. Elle ne peut être que malheureuse, si je la croyais coupable, je mourrais. » Paul Labre lui prit les deux mains. « Vous parlez comme les paraboles, maman, murmura-t-il. C'est égal, je l'ai dit et je le répète, je ne sais point au monde une meilleure femme que vous. Je ne vous demande pas vos secrets et je vais vous dire les miens. » « Ah !» fit Thérèse, souriant dans ses larmes, « vous êtes un cœur, vous. J'ai pensé à cela bien souvent. J'aurais mieux fait, ah, deux jeunes mariés autour de moi, le bonheur dans ma pauvre maison. » Elle s'interrompit brusquement et essuya ses yeux mouillés d'un revers de main. « Quel ange d'enfant » murmura-t-elle en regardant Suavita. Puis elle dit, « Ne me croyez pas folle, monsieur Labre, voilà qui est fini. Parlez, je vous écoute. » Paul Labre raconta tout ce qui lui était arrivé, sans rien cacher, sans rien omettre. Thérèse Soulas l'écoutait avec une avidité étrange. Évidemment, elle voyait dans son récit des choses que lui-même n'y découvrait point. Plusieurs fois, pendant que Paul disait les soins donnés par lui à l'enfant, Thérèse se pencha sur le sommeil de Suavita, effleurant son front d'un baiser de mère. Son regard aussi était d'une mère, mais d'une mère inquiète. Il y avait dans sa pensée autre chose que le présent. Elle songeait laborieusement. Paul Labre glissa sur l'incident relatif à la lettre de son frère qu'il avait trouvée et lue vers 6 heures du matin. Il la mentionna pourtant et promit d'y revenir. « Je lui ai donc donné ce nom de Blondette, poursuivit-il, en attendant que je sache son vrai nom, car je le saurais, fallut-il retourner Paris comme un gant. Et n'est-ce pas que ça lui va bien, Blondette ? Vers 7 heures, 7 heures et demie, elle s'est éveillée, mais là, tout à fait. Son premier regard a été encore bien effrayé, mais tout de suite après, elle m'a souri. Je ne sais pas comment vous dire cela, maman, vous le verrez bientôt vous-même. Son sourire fait mal. » Il y a dedans quelque chose de vague et de troublé. On croirait qu'elle cherche sa raison perdue et j'ai peur. » Paul n'acheva point, mais son doigt toucha son front. Thérèse le regardait fixement. Au lieu de répondre, elle pensait, « Je n'ai jamais ouï dire que la petite mademoiselle de Champmas fût une innocente ou une folle. Le général m'aurait parlé de cela. Et ne lui a-t-il pas adressé la lettre, ma lettre, comme à sa sœur ? On n'écrit pas quand il y a une folle, Isole Suavita Nefichéri. Ce nom de Suavita, prononcé en elle-même, la fit tressaillir. Son regard semblait demander à l'enfant, « Es-tu Suavita ?» Mais sa pensée poursuivait, « Ce n'est pas elle, je suis sûr que ce n'est pas elle. « À quoi songez-vous, maman ?» demanda Paul. « À elle, répondit Thérèse, pauvre fillette. » « C'est bien triste, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de plus triste encore. Quand la réunion est venue, j'ai demandé à Blondette si elle voulait manger. Elle m'a fait signe que non. Je lui ai demandé si elle voulait boire, elle a répondu « oui, toujours par signe ». Cela ne m'a pas étonné, car elle n'avait pas encore donné de pareilles marques d'intelligence. C'était un progrès, et je guettais chèrement le réveil complet de ses facultés. Avec du vin, du sucre et de l'eau, je lui ai composé un breuvage qu'elle a bu à longs traits jusqu'à la dernière goutte. Après avoir bu, elle m'a jeté un clair regard où il y avait presque un sourire, et puis ses lèvres se sont entrouvertes, et j'ai cru cette fois qu'elle allait parler. J'étais heureux d'entendre enfin sa voix, mais je devais éprouver ici une déception cruelle. Elle a fait un effort qui a contracté tous les muscles de son visage, ses yeux se sont égarés, et au lieu de la parole espérée, sa gorge n'a rendu qu'un son rauque. « Elle est muette !» s'écria Madame Soulas. Paul la regarda stupéfait. C'était une sorte de triomphe qu'il y avait dans cette exclamation. « Elle est muette !» répéta-t-il douloureusement. « Un pauvre, pauvre enfant !» murmura Thérèse, qui mit ses lèvres sur la petite main de Blondette. Elle pensait « Cela se dit, cela ne peut manquer de se dire. J'ai parlé d'elle si souvent, on m'aurait répondu « Elle est muette !» Et le général, quand il m'a donné la lettre, il m'aurait dit « Suavita est muette !» Ce n'est pas elle, ce n'est pas Suavita. « Vous êtes bonne, maman !» reprit Paul, qui suivait les caresses de Madame Soulas d'un œil attendri. « Mais... vous avez quelque chose ce matin. Quand vous avez dit « Elle est muette », on aurait juré que vous étiez contente. « Moi ?» s'écria Thérèse. « La chère petite créature, vous ne pouvez point soigner cet ange-là comme il faut, monsieur Paul. C'est moi qui lui servirai de mère. »« J'y compte bien, » dit Paul en lui serrant la main, « d'autant que je vais être obligé de travailler maintenant. Depuis qu'elle est là, l'idée m'est venue que je peux me louer dans un atelier ou une fabrique comme tant d'autres. » « Vous, monsieur Paul, dit Thérèse, travaillez de vos mains ?» Paul se mit à rire. « À moins qu'un héritage ne me tombe des nues, dit-il gaiement. « Mais voyons, maman, parlons un peu de moi. Je vous ai dit que j'avais désormais plus d'une raison pour vivre. Je ne serai peut-être pas forcé de me faire ouvrier tout à fait. Je vais avoir un appui, un mentor. Mon frère Jean est arrivé. » « Ah, bravo !» s'écria Madame Soulas, « voilà une vraie nouvelle. Quand le verra-t-on, ce beau monsieur Jean ? C'est un baron, savez-vous » Paul regardait avec distraction l'adresse de la lettre. « Il m'étonne de ne l'avoir pas vu encore, » répondit-il. « Certes, je n'ai pas d'inquiétude. Du Havre à Paris, on ne rencontre pas de sauvages, mais enfin, sa lettre était datée d'avant-hier, et il m'y disait « Demain soir, je t'embrasserai. » « Demain, c'était hier, Philotès, il est peut-être venu. »« Peut-être, » prononça Paul d'un air pensif. « En tout cas, il reviendra. »« Oh, certes, voulez-vous que je vous lise sa lettre, maman Soulas ?»« Je crois bien, » répliqua la bonne femme, « je suis tout oreille. » Paul déplia la lettre dont le papier mouillé, puis séché, criait sous sa main. Grâce au bain prolongé de cette nuit, l'encre avait pâli. Cela ressemblait à quelque vieille missive à demi effacée par le temps. Et l'apparence des choses frappe, car Paul dit « Je ne saurais exprimer nettement ce que j'éprouve. Je sais d'où vient cela et de quand c'est écrit, c'est tout près, et c'était hier, mais hier me fait l'effet de longtemps, et le Havre me paraît comme le bout du monde. Ce n'est pas triste cependant, voyez plutôt. » Il commença « Mon vieux Paul, quand tu vas recevoir la présente, comme on dit dans le noble style des conscrits et des millionnaires, voici ce que tu penseras en voyant le timbre. Tu penseras, maître Jean est un garçon économe et rangé. Pour ne pas payer la poste de Montevideo, il a confié ce message à un monsieur partant de l'Uruguay pour la Syrie ou pour Pontoise, et il lui a dit « Mon cher monsieur, au nom de la patrie, rendez-moi le service de jeter ce pli à la boîte au Havre de Grâce, située à l'embouchure de la Seine. Je vous en garderai une reconnaissance éternelle. » Les Parisiens sont comme cela, ils devinent tout à l'envers. Ce sont des sorciers brevetés pour se tromper 12 fois sur 10. « Caramba, mon fils, je séchais de regret là-bas à ne plus entendre leur adorable balourdise. Il n'y a qu'un Paris, vois-tu, qui est bête comme tout le reste de l'univers ensemble. Là-bas, en Amérique, on manque de sornettes. Les gens parlent raison, c'est sinistre. Je n'ai pas pu me passer plus longtemps de Paris, des nigauderies ou la mort. C'est moi qui suis au Havre, c'est moi qui mets ma lettre à la poste, moi, moi-même, moi seul. » Il est drôle, le frère Jean, dit madame Soulas, mais ces choses-là, quand ça vient de plus loin que la barrière, ça sent le ranci. Il a de l'esprit comme quatre, commença Paul. Je ne dis pas, mais... Et vous avez raison, madame Soulas, ce n'est plus ça, quoi. Bon, je continue. Plaisanterie à part, car je ne suis pas revenu pour m'amuser, petit frère, voilà déjà du temps que je vis inquiet là-bas. Ma bonne chère mère ne m'écrit qu'une ligne à la fin de chacune de tes lettres, et tes lettres elles-mêmes ne me disent rien de ce que je voudrais savoir. Le soir, en me couchant, je me suis demandé pendant 2 ans, que font-ils là-bas? Quelle est la situation vraie de ma mère? A-t-elle renoncé à la passion qui fit son malheur? Surveille-t-elle dignement la jeunesse de Paul? La mort de quelques parents lui a-t-elle fait des ressources? Ah ça, interrompit encore Thérèse, il ne sait donc pas que la pauvre madame Labre est morte? Ma lettre et lui se sont croisés, répondit Paul. Il ne sait pas, il ne peut pas savoir. Savez-vous qu'il parle comme un livre, monsieur Paul? C'est indigne et cher cœur. Je reprends. Certes, bon petit frère, je ne vais pas jusqu'à t'accuser de manquer de franchise, mais qu'est-ce que c'est que cette place dont vous vivez et que tu ne désignes pas? À ton âge, il ne peut pas y avoir de bien gros appointements. Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai pu vis-à-vis de vous, mais je pouvais si peu. Je reviens pour savoir et pour voir. Nous sommes les Labre d'Arcis, après tout. Je n'ai rien connu de si haut que la conscience de mon père. Je veux voir et savoir. J'ai droit. Voir notre vie, savoir nos affaires. Tu me diras peut-être que tu n'as pas voulu ou osé m'écrire. Faut-il l'avouer, le quartier où vous êtes me fait peur. La rue de Jérusalem, du reste, tout me fait peur. Autrement, je ne suppose pas que le fils d'Antoine Labre se soit fait agent de police, mais, enfin, tu vois bien que je devenais fou. Un matin, je me suis embarqué. J'ai dû bien faire, puisque, depuis ce matin-là, j'ai le cœur léger. Je n'apporte pas beaucoup d'argent, petit frère, mais j'apporte beaucoup de tendresse et un courage à toute épreuve qui ne reculera devant rien. Si je vous trouve heureux, tant mieux, je redeviendrai libre de faire à ma fantaisie. Si je vous trouve malheureux, comme je le crains, je suis jeune encore, te voilà devenu un homme morbleu, ce serait bien le diable si à nous deux nous ne nous tirions pas d'affaire. Tu m'as compris, prépare notre mère, je vais me coucher. Demain, à 4 heures du matin, je serai dans la malle-poste. Demain, sur les 8 à 9 heures du soir, je frapperai à ta porte. Je t'embrasse, Jean. Il y eut un silence après la lecture de cette lettre. Madame Soulas le rompit la première et dit « Voilà déjà 13 heures de retard. » Avant de m'en aller dans l'autre monde, murmura Paul au lieu de répondre, je lui avais écrit, moi aussi. Il n'aura pas ma lettre. Ce sera plus dur à dire qu'à écrire. « Mais, après tout, s'interrompit-il en relevant la tête, si j'ai de la peine, je n'ai pas de remords. » 13 heures, répéta Thérèse. À votre place, moi, je m'informerai. » Disant cela, elle avança la main vers le papier où était le fromage et ajouta « La tête me tourne. J'ai besoin, voulez-vous, me donner à déjeuner ce matin, monsieur Paul ?» Paul lui tendit du pain, mais au lieu de manger, elle s'écria « Tiens, tiens, voilà votre nom imprimé sur ce chiffon. » « Je n'en ai jamais tant vu, dit le jeune homme en riant, mon nom imprimé. » « Et celui de votre frère aussi, continua Thérèse, qui enlevait le fromage avec son couteau pour mieux lire. « Mon frère, répéta Paul, dont l'inquiétude, vaguement excitée, n'avait besoin que d'un prétexte pour se faire jour, est-ce qu'il lui serait arrivé malheur ?»« Pas depuis son retour en France, toujours, repartit l'hôtesse, car ceci a l'air d'un bien vieux journal. Tenez, voyez au dos, bourse du 23 décembre, et nous sommes à la fin d'avril. » Elle acheva d'enlever le fromage. Paul continuait. « Vous trouvez que je ne m'occupe pas assez de ce retard, maman Soulas ? 13 heures, c'est long en effet, mais j'ai mon idée. Hier soir, en descendant, j'ai croisé un homme dans l'escalier. L'homme m'a demandé si je n'étais point Paul Labre. « Mais bien sûr que c'était lui !» s'écria Thérèse. « Mais comment n'a-t-il pas frappé à ma porte ?» Elle s'interrompit pour dire encore « Tiens, tiens !» Chose singulière, tout en examinant le papier avec une sincère surprise, elle regardait du coin de l'œil la fillette endormie. Son attention était pour le moins partagée. « Montrez, fit Paul, est-ce une injure ?» Car il venait de songer à son aventure avec le général. En ce temps-là, les journaux parlaient de tout et ne ménageaient point les hommes de police. « C'est une fortune, peut-être, » répondit Madame Soulas. En même temps, elle se mit à déchiffrer le lambeau de journal rendu transparent par l'humidité. L'essieu Labre Jean et Labre Paul, tous deux fils du sieur Labre d'Arcisse Antoine, sont invités à se présenter immédiatement en l'étude de maître Hébert, notaire, rue Vieille du Temple 22, pour affaires qui les intéressent. Elle passa le chiffon de papier à Paul, qui essaya de railler. « Je ne me connais pas donc en Amérique, » dit-il. Il lut à son tour et ne réussit pas complètement à cacher son trouble. Entre toutes les choses qui peuvent exciter chez un homme l'espoir ou la crainte, il faut placer, au premier rang, les communications du genre de celles-ci. Elles ne disent rien, et c'est pour cela qu'elles émeuvent. Ce peut être un coup douloureux, ce peut être une aubaine inespérée. Paul avait honte des battements de son cœur. Il dit « Du 23 décembre à la fin d'avril, il y a de la marge, et puisque le notaire a bien attendu 4 mois, il peut attendre encore. » S'il ne disait pas sa pensée, franchement et complètement, Thérèse, au contraire, exagéra la sienne de parti pris en répondant « Monsieur Labre, vous allez me faire le plaisir de prendre tout de suite une voiture et de courir au numéro 22 de la rue Vieille du Temple. J'ai idée que vous voilà riche. » Son regard glissa encore vers le lit où dormait la jeune fille. Il eût été malaisé d'analyser l'expression de ce regard. Le fait qui eût été deviné aisément par un observateur était celui-ci. Pour une raison ou pour une autre, Thérèse avait désir d'éloigner Paul Labre, et ce désir augmentait à chaque instant. Paul hésita. « Ce n'est pas que je craigne de la laisser seule avec vous, maman, » commença-t-il. « Il ne manquerait plus que cela, » interrompit-elle. Puis elle ajouta gaiement. « Hé, grand enfant, tout ce que je vous dis, c'est justement à cause d'elle. Maintenant que vous avez cette charge-là sur les bras, il vous faut des ressources. Cette petiote, quand nous l'aurons remise sur pied, ne vivra pas de l'air du temps. » Paul prit son chapeau vivement. « C'est juste, » fit-il, « je me reprocherai de n'avoir pas fait le nécessaire. » Il sortit. Madame Soulas resta un instant immobile, écoutant le bruit de ses pas qui descendaient l'escalier tournant. Quand elle n'entendit plus rien, elle alla vivement vers le lit où était l'enfant. Ses sourcils étaient froncés et une mate pâleur couvrait sa joue. « Isole, » murmura-t-elle, « Isole ne peut avoir rien fait de mal. » Elle se pencha au-dessus du lit et regarda attentivement le visage de la fillette. « J'ai beau regarder, je ne sais pas, » pensa-t-elle tout haut, « je ne vois pas. Quand on a le cœur bouleversé, comme je l'ai, on trouve des ressemblances partout. » Et pourtant, c'est bien sûr, elle n'a ni les traits du général ni ceux de la comtesse. Ah, c'est sûr, sûr. » Elle approcha sa main de celle de l'enfant. Sa main tremblait violemment. « Je veux tenter l'épreuve, » fit-elle, « mais auparavant, je veux l'embrasser. » Ses lèvres, blêmies par une indicible frayeur, effleurèrent le front de la fillette endormie. Il y avait dans ce baiser une tendresse passionnée, mais pleine d'angoisse. L'enfant eut un tressaillement faible. Madame Soulas lui donna une seconde caresse qui l'éveilla doucement. En voyant ses paupières s'entr'ouvrir, Madame Soulas se chancela, mais elle dit tout bas, penchée qu'elle était encore sur l'oreiller, « Suavita !» L'enfant lui jeta un regard farouche et sembla chercher dans la chambre un protecteur absent. « Suavita, ma chérie, » reprit Thérèse, « j'ai une lettre de votre bon père qui vous dit d'avoir confiance en moi et de m'aimer. La voici, lisez. » Les traits de la fillette se contractèrent et sa bouche rendit ce son rauque que nous avons décrit. En même temps, ses yeux se refermèrent. Madame Soulas se tomba sur ses deux genoux et joignit les mains avec ferveur. Oh, « Non, non, mon Dieu, » dit-elle, « celle-là n'est pas mademoiselle de Champmas, et je peux chercher ce qu'il aime, ce qui la pleure sans doute, sans trouver sur ma route le crime de ma propre fille. »